Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Un nouveau drame en mer Méditerranée au large de la Tunisie. 14 migrants de pays d'Afrique subsaharienne sont morts noyés. 54 autres ont été secourus. Regard sur les combats de l'avocate et militante féministe Gisèle Halimi au lendemain d'un hommage national présidé par Emmanuel Macron. L'adjointe au maire de Suresnes, Béatrice de Lavalette, s'est rendue ce mercredi sur le lieu de naissance de Gisèle Halimi à La Goulette, près de Tunis. Vous l'entendrez. Le président tunisien se défend de tout racisme à l'égard des Africains subsahariens. C'était lors d'une entrevue avec le président de Guinée-Bissau qui faisait escale à Tunis. Vous entendrez Kais Saied. Kais Saied qui annonce la convocation des députés à la première session du Parlement ainsi que la dissolution des conseils municipaux. Le gouvernement français renouvelle son appel au gouvernement israélien à protéger les civils palestiniens. Un appel dans un contexte de recrudescence de violence en Cisjordanie. La réforme des retraites, le Sénat a voté le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Le gouvernement souhaite porter à 9 mois la durée minimum de résidence sur le sol français pour être éligible au minimum vieillesse, une mesure vivement critiquée par le président du groupe Liot à l'Assemblée nationale, le député de la Meuse, Bertrand Pancher, qui sera l'un de nos invités. Les élèves ont jusqu'à ce jeudi minuit pour formuler sur Parcoursup leurs vœux d'études supérieures. Chaque candidat peut formuler 10 vœux. Ce drame au large de la Tunisie, une embarcation qui transportait des candidats à l'exil a coulé. 14 migrants de pays d'Afrique subsaharienne sont morts noyés, 54 autres ont été secourus. L'embarcation a coulé au large de Sfax. C'était mercredi après-midi un hommage national rendu à l'avocate et militante féministe Gisèle Halimi, une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Le président français a notamment rappelé ses combats contre la colonisation et la guerre d'Algérie. L'adjointe au maire de Suresnes, Béatrice de Lavalette, s'est rendue ce mercredi sur le lieu de naissance de Gisèle Halimi en Tunisie, à La Goulette, près de Tunis. Entretien avec Béatrice de Lavalette.
Vous savez que je suis très engagée dans la lutte pour les droits, pour l'émancipation des femmes, dans la lutte contre les violences qui sont faites aux femmes. Et j'ai pris l'habitude depuis quelques années, même si ça avait été interrompu par la pandémie, de répondre chaque année à l'invitation de mes amis tunisiennes, tunisiens, tous les acteurs de terrain qui sont engagés au quotidien, les militants associatifs, les élus, les responsables gouvernementaux, à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. Et donc, cette année encore, effectivement, j'étais à Tunis, ça ne vous a pas échappé, où j'ai pu rencontrer un certain nombre d'élus, de femmes de La Goulette, où est née Gisèle Halimi. J'ai déposé une gerbe dans la rue qui vient d'être inaugurée à son nom. J'ai rencontré de nombreux médecins, des acteurs humanitaires, sanitaires, qui accueillent des femmes victimes de violences, et de nombreux responsables de la société civile qui sont engagés dans cette lutte pour l'émancipation des femmes. Mais effectivement, j'ai absolument tenu, dès mon arrivée, hein, c'est le jour même où je suis arrivée, j'ai tenu à aller à La Goulette déposer une gerbe dans la rue qu'on a inaugurée, et j'ai été très impressionnée par l'accueil des élus et des femmes de cette ville où elle est née. Et ils ont tenu à lui rendre un hommage très appuyé en me disant que pour eux, c'était un symbole très important. Le symbole de celle qui avait dit non, qui avait dit non à une société patriarcale qui l'enfermait dans un rôle de soumission au service des hommes de sa famille, puisque vous savez que elle l'a dit elle-même, hein, je crois qu'elle a fait une grève de la faim à l'âge de 10 ans parce qu'elle refusait d'assurer des tâches ménagères dont étaient exemptés ses frères et qu'elle devait servir, laver le linge, faire la cuisine, la vaisselle. Et donc, elle représente celle qui dit non et qui veut prendre en main son destin, qui veut lire. Une femme éprise de culture, de formation universitaire, muée par le désir de s'émanciper. Et voilà, c'est celle qui s'est dressée très tôt et qui a refusé le destin tout tracé que sa famille lui avait imaginé dans une société tunisienne patriarcale d'avant-guerre. Donc, toutes ces femmes que j'ai rencontrées à La Goulette m'ont dit que Gisèle Halimi, qui ne s'appelait pas d'ailleurs Gisèle Halimi, qui est devenue Gisèle Halimi, constituait un symbole et un étendard en Tunisie, d'ailleurs, comme en France et je dirais dans le monde, hein, je pense à l'Iran aujourd'hui, pour toutes celles qui refusent l'asservissement, qui veulent être maîtres de leur corps, de leur vie familiale comme professionnelle et qui veulent choisir leur vie. Vous voyez, ça c'est la mère de la Goulette qui m'a dit, on parlait de la révolution en Iran et elle me disait, vous savez, Gisèle se réjouirait aujourd'hui très certainement de la révolution féministe qu'elle a appelée de ses voeux. Et ici, en Tunisie, comme peut-être ailleurs, hein, moi je l'ai pensé en France et je regrette qu'elle ne soit pas au Panthéon aujourd'hui, elle est sans doute insuffisamment reconnue, notamment pour les jeunes générations, alors qu'elle constitue vraiment un flambeau, un porte-drapeau qui pourrait inspirer et qui peut aujourd'hui inspirer ou donner du courage à toutes celles qui veulent se dresser, à toutes celles qui veulent dire non. Anna Karn me disait, mon amie Hélène, là, une conseillère municipale en charge des relations internationales à la Goulette, elle me disait elle incarne vraiment un testament pour toutes les nouvelles générations. Et son enfance en Tunisie, qui constitue encore une réalité hein, dans certains milieux, j'ai rencontré de nombreuses femmes ici qui m'ont raconté la vie des femmes tunisiennes qui ne savaient pour certaines même pas qu'elles avaient le droit de vote ou qui de toute façon demandaient à leur mari comment elles devaient voter. Et bien dans certains milieux qui sont très traditionnels à la campagne, mais pas qu'à la campagne, elle constitue vraiment un symbole qui peut donner du courage à toutes ces femmes éprises de liberté.
Béatrice de Lavalette, adjointe au maire de Suresnes, elle répondait à Loïc Barrière. Lors de cet hommage national rendu à Gisèle Halimi ce mercredi après-midi, Emmanuel Macron a annoncé la présentation dans les mois prochains d'un projet de loi visant à inscrire la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Le président tunisien annonce la convocation des députés à la première session du Parlement. Autre annonce de Kais Saied lors d'un conseil ministériel ce mercredi soir, l'examen d'un projet de décret relatif à l'amendement du Code des conseils municipaux et un autre lié à l'élection de l'Assemblée nationale des régions et des districts. Le président tunisien a annoncé la dissolution des conseils municipaux et leur substitution par des délégations spéciales. Kais Saied s'est par ailleurs défendu de tout racisme à l'égard des Africains subsahariens. Cela après le tollé suscité par son discours contre les migrants clandestins en Tunisie. Le président tunisien a affirmé que leur présence était source de violence et de crimes. Lors d'une entrevue avec le président de Guinée-Bissau qui faisait escale à Tunis, le chef de l'État tunisien a affirmé que les Africains présents en Tunisie étaient des frères. Kais Saied.
Cette situation concernant les Africains ne peut pas être interprétée par les langues malveillantes comme ils l'ont fait ces derniers jours de racisme. De quoi ils parlent? Ils divaguent. Tout d'abord, j'ai un certain nombre de ma famille qui sont mariés à des Africains. Mes amis à la faculté de droit de Tunis étaient des Africains. Un voisinage historique avec les cadres et les agents de la Banque africaine de développement en Tunisie lorsque l'Abad s'est installé en Tunisie pendant un certain nombre de temps, un voisinage extraordinaire. Nous vivons comme des frères. Mais ce qui est inacceptable, c'est de voir ou interpréter des propos pour nuire à la Tunisie, pour nuire avec un certain nombre d'États africains. Ceux qui veulent nuire, voilà un flagrant démenti aujourd'hui. à l'occasion de votre escale.
Le président tunisien Kais Saied. Le gouvernement français renouvelle son appel au gouvernement israélien à protéger les civils palestiniens. Un appel dans un contexte de recrudescence de violence en Cisjordanie. La France demande la mise en œuvre des demandes du Conseil de sécurité des Nations Unies du 20 février dernier, en particulier celles liées à la cessation de toute violence à l'égard des civils. Dans ce contexte, trois Palestiniens, dont deux combattants du djihad islamique, ont été tués ce jeudi matin dans le nord de la Cisjordanie occupée. C'est arrivé lors d'un échange de tirs avec des forces israéliennes. En pleine mobilisation contre la réforme des retraites en France, le Sénat, dominé par l'opposition de droite, a adopté le relèvement de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite. Un vote par 201 voix contre 115 sur 345 votants. De son côté, l'intersyndicale continue à mettre la pression avec une nouvelle mobilisation prévue samedi. Elle a demandé à être reçue en urgence par Emmanuel Macron pour qu'il retire sa réforme. Le gouvernement qui souhaite porter à 9 mois la durée minimum de résidence sur le sol français pour être éligible au minimum vieillesse. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, s'est engagé à donner un avis favorable à un amendement du sénateur Les Républicains, Bruno Retailleau, au projet de réforme des retraites du gouvernement. Amendement vivement critiqué par le président du groupe Liot à l'Assemblée nationale, le député de la Meuse, Bertrand Pancher.
J'avoue que j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. C'est-à-dire que quand on cotise, on a des droits à bénéficier de la retraite. Et par conséquent, on peut très bien aller passer 3 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois à l'étranger et bénéficier de ces prestations. Je pense notamment à tous nos amis qui sont d'origine marocaine, algérienne, tunisienne, qui vont passer une partie de leur retraite dans ces pays-là. C'est vraiment incompréhensible. Alors j'observe que c'est une proposition de Bruno Retailleau, LR, au Sénat. Est-ce que on veut encore ostratiser toutes ces personnes? On entretient des relations diplomatiques quand même relativement compliquées, je pense notamment avec le Maroc. Je crois que c'est pas la peine d'en rajouter une couche. Je trouve que c'est incompréhensible.
Le fait que Gabriel Attal donne son feu vert à cette réforme, cela vous surprend ?
Ça me surprend pas, parce qu'il faut qu'il y ait un accord avec LR pour que la loi passe. La loi passe, et c'est en ce moment de la surenchère, de mesures qui sont incompréhensibles. On a l'impression qu'on va faire en sorte qu'il y ait encore beaucoup plus de personnes qui aillent manifester dans les rues ces prochaines semaines.
Et plus globalement, sur cette réforme des retraites, son évolution avec les différents amendements adoptés au Sénat, est-ce que vous avez changé de regard sur cette réforme ?
Alors pas du tout, parce que finalement, ça va finir par coûter plus cher que ce que ça rapporte. On s'était fixé comme objectif que ça soit équilibré. Tout le monde y va de sa surenchère en termes de dépenses. C'est vraiment l'expression que ce projet de loi a été très très mal préparé. Je pense qu'il aurait fallu commencer par le commencement, c'est-à-dire l'emploi des seniors. C'est pas le tout de vouloir faire travailler les gens 2 ans de plus si on peut pas travailler quand on a plus de 58-60 ans. Et c'était d'identifier des mesures de financement complémentaires. Je pense que réellement, il y a jamais eu autant de richesses dans notre pays, à travers notamment l'explosion des patrimoines. Le patrimoine des milliardaires a été multiplié par 2 en 7 ans de temps. Qui suis quand même pas un dangereux gauchiste, je trouve que quand même tout ça nous interpelle. Il y avait une possibilité aussi, je pense, de taxer les transactions financières. On voit bien que la spéculation pour la spéculation, ça n'apporte rien. Donc je pense vraiment qu'on aurait dû commencer par le bon bout. C'est pas le cas. Et comme il faudra que cette loi soit votée, on accepte un petit peu tout. Et finalement, ça va coûter plus cher que ce que ça va rapporter.
Et comment appréciez-vous la mobilisation populaire contre cette loi, avec cette journée du 7 mars dernier, qui a été particulièrement suivi, cette journée de mobilisation intersyndicale?
Oui, moi je mets en garde le gouvernement. On a eu des vraies oppositions, évidemment dans l'opinion publique et maintenant dans la rue. Et on ne peut pas gouverner contre la vie générale. Quand on a plus de 90% des salariés qui sont contre cette réforme, ça interpelle. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et moi, je suggérerais vraiment au gouvernement d'arrêter, soit de revenir sur cette augmentation de l'âge légal de départ à la retraite, soit de considérer qu'il n'y a pas un accord sur cette loi et de retravailler. Et je pense qu'on aurait tous plaisir à retravailler parce que nous sommes responsables. Il faut que ces régimes soient équilibrés. Il faut aussi compenser tout ce qui n'est pas normal. Il y a plein d'injustices et on aurait pu vraiment travailler intelligemment. intelligemment.
Vous ressentez une colère qui s'amplifie au fil des semaines. Est-ce que vous craignez un printemps social particulièrement agité?
Oui, ben, il faut se méfier du feu qui couve sous la cendre. Moi, j'ai été très frappé par le mouvement des Gilets jaunes. Personne n'aurait pu prévoir cette mobilisation énorme de nos concitoyens. S'il n'y avait pas eu l'armée, la police et la gendarmerie, on aurait connu notre révolution orange comme ça s'est produit dans les pays d'Afrique du Nord. C'est vraiment la réalité. Donc faut faire très très attention. On est là pour servir, c'est écouter l'opinion publique, écouter les gens qui nous entourent et évidemment conduire des réformes avec intelligence et avec souplesse. Il faut prendre notre temps. On n'est pas à 6 mois, 1 an près pour mener une mesure aussi importante, parce que qu'est-ce qui peut se passer? Quand tout le monde continue à se mobiliser, le gouvernement sera bien obligé de retirer cette proposition de loi et peut-être jamais rediscuter, ne serait-ce que des questions essentielles des retraites ces prochaines années.
Vous êtes député de la Meuse. Dans votre département, dans votre circonscription, vous ressentez cette colère?
Oui, mais moi, Bar-le-Duc, 16 000 habitants, département de la Meuse, moins de 200 000 habitants, j'ai eu 2 500 manifestants. Je suis allé moi-même manifester lors des précédentes manifestations. J'ai vu des gens avec les familles, des gens qui venaient jamais manifester derrière les syndicats. Les gens étaient vraiment très présents. Non, il y a vraiment une mobilisation partout. Et peut-être encore plus dans les territoires ruraux ou dans les territoires urbains. Parce que dans les territoires ruraux, on a un sentiment un peu d'abandon. Les salaires sont plus faibles. Et les gens sont peut-être... C'est plus de métiers liés à l'industrie, des métiers difficiles. Et on est... plus en difficulté, plus confronté à ce type de préoccupation.
Bertrand Pancher, député de la Meuse, président du groupe Liot à l'Assemblée nationale. Le président français reçoit ce jeudi soir à dîner plusieurs personnalités, dont les représentants des cultes, pour discuter de la fin de vie. Ils sont invités à partager leur opinion auprès d'Emmanuel Macron sur cette question. La Convention citoyenne sur la fin de vie doit rendre les conclusions de ses travaux le 2 avril prochain. Les élèves ont jusqu'à ce jeudi minuit pour formuler sur Parcoursup leurs vœux d'études supérieures. Chaque candidat peut formuler 10 vœux sans avoir à les classer et renseigner des sous-vœux en fonction des formations. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission pour l'égalité femmes-hommes, l'appel des territoires féministes. Alexis Bachelet reçoit Sandra Lotte Fernandez, responsable du plaidoyer égalité femmes-hommes chez Oxfam France et Chénès Kirouni, présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.